À mes auditeurs, bienvenue à vous tous. Nicole à ce micro pour l'émission La Sainteté au quotidien. Et c'est toujours vivre ce carême avec la parole de Dieu, plus exactement les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Mais vous savez, nous l'avons vu, dans la Bible, il n'est pas dit les 10 commandements, c'est dit les 10 paroles. D'ailleurs, en grec, ça a donné le décalogue, donc il veut dire exactement 10 paroles. En hébreu, vous savez, il y a la forme féminine et la forme masculine. Donc, Aseret Adiberot au féminin et Aseret Adevarim au masculin. Donc, lorsqu'on parle dans la Bible, dans la Torah, on va trouver le mot Devarim au masculin pluriel. Mais dans le Talmud, qui sont les commentaires, on trouvera les 10 paroles dites au féminin. Parce que les paroles dites au féminin, c'est pour dire que dans la pratique, ces 10 paroles, elles doivent être enfantées. Elles doivent nous donner une nouvelle vie, une nouvelle mentalité. Et c'est vrai que ce code de la loi, entre guillemets, c'est véritablement un code d'amour. C'est le chemin pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer le prochain comme soi-même. Et nous en étions au premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Dieu se fait connaître. En rappelant d'abord, je vous l'ai dit, c'est très important parce que souvent nous l'occultons en se présentant comme celui qui libère. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, de solitude. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il faut replacer aussi ces commandements, dans le contexte. N'oubliez pas, Israël, pendant plus de 400 ans, subit donc le joug de l'oppresseur, du pharaon, qui leur rend leur vie pire que toute servitude, un esclavage qui va jusqu'à la négation vraiment totalement de la dignité de chaque personne. Et dans cette souffrance d'Israël, il ne faut pas oublier que Israël reste quand même soumis aussi aux différentes, à la mentalité égyptienne et donc aux différentes croyances égyptiennes, aux idoles. Et on sait très bien que pendant que Moïse sera sur la montagne pour recevoir les 10 paroles de la bouche de Dieu, pendant ce temps, le peuple qui, eh bien, ne voyant rien venir, qui s'inquiète, se dit, mais après tout, peut-être tout simplement c'est un dieu de l'Égypte qui nous a fait sortir d'Égypte. Faisons-nous un dieu à notre ressemblance et à notre image. Voilà un petit peu ce que dit le peuple à ce moment-là, si vous voulez, si vous me permettez l'expression. Et voilà donc qu'il se fabrique le veau d'or, le fameux veau d'or. Donc, premier commandement, tu adoreras Dieu seul. Dieu premier servi, rappelez-vous. Hein, la belle figure de Jeanne d'Arc que j'aime bien citer et qui effectivement a mis en application ce commandement. D'abord, Dieu premier servi. On parlait hier parce qu'il y a un ordonnancement, je ne sais pas si ça existe, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire en remettant les choses à leur juste place, tout retrouve un équilibre. Si Dieu nous dit, mais d'abord, avant toute chose, pour vraiment vivre le bonheur, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Si Dieu nous le dit, ce n'est pas pour nous contraindre à l'aimer, mais parce que l'homme sans Dieu n'est pas capable d'amour. Alors vous me direz, oui, mais il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui vivent. Mais j'ai bien dit l'homme sans Dieu, je n'ai pas dit l'homme qui ne croit pas en Dieu, l'homme sans Dieu, qui ne laisse pas Dieu pénétrer dans sa vie. Nous savons qu'un autre nom de Dieu, le nom, je dirais, par excellence de Dieu, c'est l'amour. Et alors, on peut comprendre le passage de saint Paul. L'amour est patient. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour n'envie pas, il ne jalouse pas. Il ne s'estime pas supérieur à l'autre, etc., etc. L'amour, c'est Dieu. Et nous devons apprendre à aimer à cette école divine. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire de penser que Dieu nous invite à son école, nous donne tout lui-même, et il s'est donné tout lui-même sur la croix. Je vous disais donc la dernière fois que comment Jésus accomplit parfaitement ses commandements, eh bien, et déjà rien que le premier, en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, il nous suffit de contempler la croix, Jésus sur la croix. Et nous comprenons que aimer Dieu, c'est faire sa volonté, parce que sa volonté, c'est notre bonheur. Qu'il ne passe pas par nos pensées, parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu, nous le savons, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais les pensées de Dieu conduisent au véritable bonheur. Nous, nos pensées de bonheur sont toujours très limitées, nous faisons quelques essais et on se casse la figure. Nous allons d'échec en échec, très souvent. Vous direz, c'est ce qui forge aussi notre expérience, bien sûr. Mais Dieu nous propose une voie royale, une voie divine, celle de l'amour, mais il nous faut pour cela commencer par le commencement, c'est-à-dire aimer Dieu de tout notre cœur. Comment aimer Dieu de tout notre cœur? Je vous disais, on contemple la croix, qu'est-ce qu'on voit? Jésus a aimé Dieu de toutes ses forces et il a laissé ses deux grands bras, beaux grands bras, cloués, ligotés, afin de ne pas résister à la volonté de Dieu. Toute sa force, il l'a mise dans la miséricorde du Père. Jésus a aimé Dieu, son Père, de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, de toute son intelligence, si vous voulez. Et il s'est laissé couronner d'une couronne d'épines qui lui a transpercé son doux, son merveilleux visage, sa tête. Et le voilà, qui renonce à toute intelligence humaine, à toute solution humaine, et qui s'abandonne à la volonté de Dieu. Et Jésus nous a aimé son Père de tout son cœur, de toute son âme. Et une épée lui a transpercé le cœur, d'où ont jailli le sang et l'eau, en source de miséricorde pour les péchés, pour les pécheurs. Voilà qui est extraordinaire. Vous voyez, si nous n'allons pas à la source de l'amour, comment pouvons-nous aimer? Qu'est-ce que je peux donner si je ne suis pas enseigné de ces choses-là? Alors, notre vie morale, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu qui nous révèle son amour. C'est pour cela que saint Paul parle de l'obéissance de la foi. L'obéissance, ce n'est pas comme nous l'avons un peu galvaudé, ce terme d'obéissance, en voyant comme si c'était une dictature qui nous était imposée, nous devons obéir coûte que coûte sans comprendre. Non, l'obéissance de la foi, c'est comprendre, mais pas comprendre selon les vues ou les pensées humaines, c'est comprendre dans la source de l'amour, c'est-à-dire s'abandonner, faire confiance à Dieu et obéir, qui est donc aussi l'écouter. Dans le mot obéissance, il y a l'écoute, une écoute amoureuse. Parce qu'on sait que Dieu ne peut vouloir du mal. Il n'est pas l'auteur du mal. De la même manière, un enfant fait une totale confiance à ses parents. Quel qu'il soit, un enfant ne regarde pas le niveau social ou intellectuel de ses parents. Il ne regarde que leur cœur, que leur amour. Parce qu'en matière d'amour, il n'y a pas véritablement de hiérarchie. Et en regardant cet amour de ses parents, l'enfant est confiant. Il sait très bien que son père, en lui disant « Attention, ne fais pas ceci, ne va pas là, etc. » que son père le fait parce qu'il l'aime, parce qu'il veut le protéger et le conduire sur des chemins sûrs. Dieu fait de même avec l'homme. Mais il nous laisse libres, vraiment libres. Dieu ne veut pas nous contraindre, il ne veut pas des marionnettes qui obéissent au doigt et à l'œil. Alors, le premier des préceptes, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, embrasse la foi, l'espérance et la charité. Qui dit Dieu, en effet, dit un être constant, immuable, parfaitement juste, fidèle. Donc, nous devons accueillir ces paroles, accepter ces paroles et avoir en lui et une foi, une confiance entière, parce qu'il est tout puissant. Mais il est tout puissant d'amour. Quand on dit Dieu tout puissant, c'est tout puissant d'amour. Dieu est grand, il est grand par sa beauté, par son amour, et Il est clément, il est porté à faire du bien, parce qu'il est tout bien, comme dit saint François d'Assise. Tu es le bien, tu es le bien total, tu es le souverain bien, tu es tout bien. Et c'est magnifique pour ceux qui aiment François d'Assise, vous le savez, parce que François connaissait vraiment tout un chapelet, si je peux m'exprimer ainsi, ou tout un bagage énorme d'adjectifs, de qualificatifs qu'il pouvait donc attribuer à Dieu. Ça ne lui suffisait pas de dire « Dieu est bon, Dieu est amour ». Il fallait qu'il dise « Dieu est l'amour tout-puissant, il est tout bien, il est le bien souverain, le bien total, sans qui aucun bien n'est, nul ne peut être ». Enfin, c'est extraordinaire. Donc je vous invite, ça c'est une parenthèse, à découvrir aussi la poésie, entre guillemets, c'est en plus la prière de François d'Assise, qui peut vraiment nous aider aussi en ce temps de carême à nous tourner, à nous décentrer, à nous centrer sur l'unique bien nécessaire, Dieu premier servi, sur Dieu. Donc le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Et parce qu'il y a de diverses manières de pécher contre la foi. Alors, d'abord il y a, c'est toujours lié au premier commandement, hein, regardez. Il y a le doute volontaire, dit le catéchisme de l'Église catholique. Le doute volontaire et l'incrédulité. Alors le doute volontaire, qui porte sur la foi, néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l'Église propose à croire. Le doute involontaire désigne l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections qui sont liées à la foi ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci. S'il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. Vous savez que de méditer ou de relire les commandements, eh bien, ça nous aide beaucoup aussi pour faire un examen de conscience vraiment poussé. C'est un bon schéma. Donc, doute volontaire, doute involontaire. L'incrédulité, le catéchisme de l'Église catholique nous parle aussi de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d'y donner son assentiment. Alors vous me direz, mais c'est lié au doute volontaire, au doute involontaire. Non, regardez, il y a une nuance, l'hérésie, qui est la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. Donc l'incrédulité peut conduire à l'hérésie et à l'apostasie. Alors vous savez que l'apostasie c'est quand même très grave parce que c'est un péché commis contre l'Esprit Saint et Jésus nous dit dans l'Évangile que c'est un des péchés qui nous sera difficilement pardonné. L'apostasie c'est donc le rejet total de la foi chrétienne et parfois le schisme c'est le refus de la soumission au souverain pontife ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Bien. Alors là, vous me dites, bon, je ne me reconnais pas trop. C'est normal. Par contre, dans les suivants, vous allez voir, on va se retrouver plus facilement concernant l'espérance. On a parlé de la foi. Là, c'est donc, dans ce premier commandement, nous sont donnés en substance ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Donc par rapport à la foi, on a vu quels sont les obstacles à vivre de cette foi. Avec l'espérance, par exemple, lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces, ça c'est très important. Mais il doit espérer que Dieu lui donnera cette grâce, cette capacité de l'aimer en retour et d'agir conformément au commandement de la charité. Alors l'espérance, c'est cette attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Il y a aussi la crainte d'offenser Dieu, de l'amour de Dieu, de provoquer aussi le châtiment. Alors ce qui est beau dans l'espérance, c'est que celui qui espère déjà reçoit. Il reçoit déjà cette capacité justement d'aimer en retour. Le premier commandement vise aussi les péchés donc contre l'espérance, qui sont... Alors, quels sont les péchés contre l'espérance ? Ben, le premier, c'est le désespoir, bien sûr. Et puis, il y a la présomption. Alors, on va parler du désespoir très rapidement. L'homme qui cesse d'espérer de Dieu son salut personnel et les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés, eh bien, l'homme, dans cette situation, s'oppose à la bonté de Dieu et à sa justice. Car le Seigneur est fidèle à ses promesses et à sa miséricorde. Alors, quand on entend justice, il faut regarder la justice de la croix, hein, où Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde. C'est-à-dire, la justice de Dieu n'est pas la loi du talion, hein, de nous faire payer ce que nous avons fait. Bien sûr, même s'il y a pour certains péchés des conséquences auxquelles nous ne pouvons échapper, qui sont bien sûr les conséquences de nos choix. Mais la justice de Dieu, c'est d'ouvrir à l'homme la possibilité de revenir à lui, d'être recréé. C'est sa miséricorde infinie. C'est sa mort et sa résurrection sur la croix. La justice de Dieu, dans les évangiles synoptiques, on va trouver « Soyez parfaits comme votre Père est parfait, soyez justes. » Comme votre Père est juste, il fait tomber la pluie aussi bien sur les bons que sur les méchants. Voilà, ça c'est la justice de Dieu. Donnez toujours à l'homme cette chance de pouvoir revenir à Dieu. Alors, il y a deux sortes de présomptions. C'est-à-dire où l'homme finalement présume de ses capacités, c'est-à-dire il pense pouvoir se sauver par ses propres moyens, par ses forces, par ses résolutions, par ses forces intérieures, donc sans l'aide finalement d'en haut. Ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine, c'est-à-dire, voilà, moi je sais que j'obtiendrai le pardon, c'est pas grave si je pêche, et voilà que donc il espère obtenir le pardon sans véritable conversion. Et donc là, on sait très bien qu'il n'y a pas de véritable pardon s'il n'y a pas un véritable repentir, s'il n'y a pas un désir de quitter vraiment la fosse du péché, de voir vraiment que le péché que nous confessons nous détruit, nous a détruit. Et puis, pour conclure aujourd'hui, donc troisième vertu, la charité. La foi dans l'amour de Dieu, eh bien, elle comprend l'appel et l'obligation de répondre aussi à la charité divine, c'est-à-dire d'aimer Dieu en retour. Le commandement nous ordonne, si vous voulez, mais quand on entend ordonne, ça veut dire met dans l'ordre, nous donne un certain ordre pour pouvoir cheminer d'une manière claire et lumineuse. Nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus tout et toutes les créatures pour lui et cause de lui. Alors ce « à cause de lui », c'est fondamental. On y reviendra. Donc on peut pécher de diverses manières contre l'amour de Dieu, l'indifférence, néglige ou refuse la considération de l'amour divin. Elle en méconnaît la prévenance et en dénie la force. Et puis il y a l'ingratitude qui omet ou récuse de reconnaître l'amour de Dieu et de lui rendre en retour amour pour amour. Puis il y a la tiédeur, qui est une hésitation ou une négligence à répondre à l'amour de Dieu. Elle peut impliquer parfois le refus de se livrer au mouvement de la charité. Et puis il y a l'acédie, ou la paresse spirituelle, qui va jusqu'à refuser la joie qui vient de Dieu et à prendre en horreur le bien divin. Vous voyez, donc la haine de Dieu vient de l'orgueil. Ça, c'est ce qui s'oppose, c'est toujours la base, le dénominateur commun à tous nos péchés et surtout dans le refus d'accueillir cet amour de Dieu. L'orgueil, vous voyez, c'est vrai que l'orgueil, cette haine de Dieu vient de l'orgueil, elle peut s'opposer non seulement à l'amour de Dieu parce qu'elle va nier la bonté et elle prétend maudire comme celui qui interdit les péchés, qui inflige les peines. Comme si Dieu, finalement, nous interdisait de pécher parce que cela lui déplaît à lui. Mais Dieu nous interdit de pécher parce que le péché nous conduit à la mort à nous. Et bien sûr que cela lui déplaît parce qu'il a créé l'homme pour la vie, pour le bonheur. Voilà, alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais bien évidemment... Je vous retrouve et on va poursuivre toujours. On n'a pas encore tout à fait terminé avec le premier commandement. Et c'est très important parce que, justement, dans cette ordonnance, je vous parlerai justement de cet ordre, hein, de cet ordonnancement qui est très important, de mettre en ordre toute chose, de mettre chaque chose à sa place, de manière à vivre d'une manière, de façon juste et équilibrée, et de pouvoir ainsi discerner et accomplir la volonté de Dieu, qui, comme le dit François d'Assise, ne saurait m'égarer, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer, ta volonté sainte qui est donc le bonheur, le plein bonheur, la plénitude totale pour moi.